atelier consacré aux peintres femmes. Comme vous l'avez sans doute deviné, on va aujourd'hui parler des périodes les plus récentes, c'est-à-dire en gros du XXe siècle, hein. Pas forcément la période la plus simple d'ailleurs. En tout cas, ça va être le sujet de la séance d'aujourd'hui. Et puis en fin de séance, on fera évidemment une petite révision sur les cours précédents. Hein. Pédagogiquement, encore une fois, il est toujours important de confirmer les savoirs. Hein. Donc la fin de séance sera là pour ça. Mais nous allons donc commencer, ce sera l'essentiel de cette soirée, par regarder un peu un certain nombre d'artistes du XXe siècle. Alors, je n'insiste pas sur nos règles que vous connaissez tous, et nous entrons directement dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous montrer, sans commentaire, simplement pour que vous les voyiez, autant que la lumière nous permettra de le faire. Peut-être on peut fermer, oui, un peu plus là. Ouais, il s'agit de simplement... Voilà. Ça enlève un peu de lumière, c'est mieux. Je vais simplement vous montrer une vingtaine d'œuvres, une vingtaine de peintures qu'on va simplement regarder, puis après on les regardera à nouveau, pour essayer d'abord de s'intéresser et au sujet, et puis ensuite pour essayer de voir à quel type de courant artistique ces œuvres peuvent appartenir, et puis on essaiera aussi de voir à quel moment elles se situent dans le XXe siècle. On essaiera de voir chronologiquement comment placer les œuvres en question. Vous êtes prêts? Un premier regard général, hein, et puis après on y reviendra pour se poser des questions. Je pousse mon ordinateur, je le mets là. Voilà. Bien. Alors, premier regard général sur les œuvres en question, simplement pour les voir, sans commentaire particulier. On va revoir tout ça, hein. Mais c'est un premier regard. Certaines œuvres, vous les reconnaissez parce qu'on les a vues au moment de la première séance. Et à dessein, je les ai remis là, je voulais quand même qu'on se fasse un peu les yeux. Il y a des choses faciles. Hein. Voilà. Voilà les 21 œuvres sur lesquelles nous allons travailler, les œuvres d'artistes femmes, encore une fois. On va donc les reprendre dans le sens inverse, mais ce n'est pas trop grave. On va s'intéresser dans un premier temps au sujet d'abord, hein. Essayer peut-être de voir un petit peu aussi à quel courant appartient l'œuvre en question, éventuellement quel est l'auteur, parce que dans certains cas, je pense que ça ne fera pas beaucoup mystère. Et puis dans un deuxième temps, quand on les regardera une troisième fois, on essaiera un peu de les situer au XXe siècle. Est-ce qu'il s'agit du début, du milieu, de la fin? Enfin, on essaiera de créer une sorte de chronologie, de mettre les œuvres dans le bon ordre. Hein, mais dans un premier temps, regardons les œuvres, essayons de voir les sujets, voir à quel courant ces œuvres appartiennent, éventuellement de quel artiste elles sont. D'accord? Alors, on recommence par la première œuvre.
Non, c'est la dernière.
Je vais vous les montrer, on va remonter, si j'ose dire. Hein. On va remonter et après, on repartira de la première jusqu'à la dernière. Alors, la première ou la dernière peinture, effectivement. Hein. Est-ce que vous pourriez dire à quel grand courant artistique elle peut appartenir? Peut-être que le sujet nous aiderait d'ailleurs à essayer de voir à quel courant artistique important du XXe siècle cette œuvre appartient.
Est-ce que c'est un œuf ou
le sujet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Une femme?
Une femme
vierge?
Une sorte de vierge, oui. Et qu'est-ce qu'elle porte?
Un œuf.
Un œuf spécial.
Noir.
Un œuf noir. De fait, cette peinture s'appelle « La gardienne de l'œuf noir ». Est-ce que vous avez une idée du courant artistique auquel cette œuvre peut appartenir ? Surréaliste. On est en effet devant une œuvre tout à fait surréaliste. Est-ce que vous avez une idée de l'artiste qui a pu réaliser cette peinture ? Pas du tout. C'est pas grave, on y reviendra. Alors là, une autre œuvre que d'ailleurs nous avions regardée tout à fait au départ de ces séances. Hein. Alors, est-ce que vous avez une idée là, d'abord peut-être de l'artiste qui a réalisé ça, d'un courant général auquel cette œuvre pourrait appartenir, et peut-être du nom même de l'auteur. Hein, on l'avait évoqué au moment de la première séance.
Nikit Saint-Phal.
Voilà, c'est une œuvre de Nikit Saint-Phal, effectivement. Nikit Saint-Phal, mieux connu pour d'autres œuvres d'ailleurs, mais plutôt sculpturales, hein, les fameuses grosses figures féminines très colorées. Hein. Et vous vous rappelez de la manière dont cette œuvre a été réalisée ? On en avait parlé au moment de la première séance. Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que Nikit Saint-Phal a en effet réalisé cette œuvre de manière, pourrait-on dire, plus ou moins aléatoire, c'est-à-dire qu'elle avait caché sous l'épiderme de cette œuvre des poches de couleurs, des sacs en plastique contenant des couleurs. Le tout était pris dans du plâtre et elle a ensuite tiré avec une carabine sur l'espèce de planche enduite de plâtre. Et bien entendu, les tirs ont libéré la couleur qui est venue dégouliner en quelque sorte sur l'œuvre. Donc ça, c'est une œuvre de Nikit Saint-Phal, effectivement, réalisée de cette manière. Très bien. Là, de la même manière, est-ce que vous avez une idée du sujet, d'abord ? Qu'est-ce que ça peut être comme sujet ? Et est-ce que vous avez une idée du courant artistique auquel le tableau peut appartenir ? Voilà, on est de nouveau devant une œuvre surréaliste, effectivement. Une idée peut-être du sujet, du thème. Encore chez Dieu, Alice, c'est un peu coton. Hein. Il y a effectivement, sinon une licorne, du moins un cheval. Dans le fond, hein. Oui, un cheval à bascule, un cheval à pas bascule. Là, pas une panthère, pas une louve. Une hyène. C'est une hyène. Et puis, il y a quand même autre chose.
Oui.
Elle, c'est-à-dire ?
C'est un autoportrait.
C'est un autoportrait. Hein. C'est effectivement un autoportrait. Est-ce que vous avez éventuellement une idée de l'auteur ? Non ? On est là pour revoir ça, on en reparle. Là ! Alors cette œuvre-là, là aussi, est-ce que vous pourriez suggérer de quel courant plastique il s'agit ? Une chose qu'on n'a pas d'ailleurs évoquée, c'est éventuellement les pays auxquels appartiennent les artistes dont on a vu des œuvres précédemment. Mais c'est pas grave, on reviendra de toute façon dessus. Là, par contre, est-ce que vous avez une idée, encore une fois, du courant artistique, alors le sujet, là, il n'y en a pas, donc c'est vite réglé, hein. Il n'y a pas de problème de sujet dans une œuvre telle que celle-ci. Éventuellement, du pays d'où est originaire l'artiste qui a réalisé cette œuvre. Pardon ? Alors, abstraction, oui. Lyrique, je ne suis pas très sûr. Hein. Je dirais abstraction, effectivement. Est-ce que une œuvre telle que celle-là peut vous faire penser à, pourquoi pas, hein, des peintres, mais cette fois masculins, et qui auraient travaillé un peu dans le même genre ? Voilà, on peut penser à Jackson Pollock, hein, voilà. Hein. Et Pollock, donc un artiste d'où et de quand ?
Américain.
États-Unien, précisément, oui. Hein. A travaillé, quel est le... Voilà, c'est ce qu'on appelle l'action painting, hein, c'est-à-dire qui se caractérise par quoi ?
C'est le mouvement, voilà.
C'est ça, hein, la peinture qui naît du mouvement, on a là quelque chose qui, sans doute, se rattache à ce travail de l'action painting proche de Pollock. Une idée d'un auteur ? D'une auteur ? Non ? Et là, idem, Alors, au niveau du sujet, c'est vite réglé. Il n'y en a pas vraiment. Hein. Voilà. Par contre, est-ce que vous avez une idée du courant artistique important au XXe siècle auquel cette œuvre appartient, et peut-être d'un auteur ou d'un pays d'où provient la femme qui a réalisé ce tableau?
C'est géométrique.
Oui, on est en effet dans le domaine de l'abstraction géométrique, effectivement, qui est un courant artistique important au XXe siècle. Hein. Et une idée peut-être de l'auteur ou de... Pardon ? Ah, ça pourrait être une Russe, on verra si c'est le cas. Mais c'est vrai que les Russes, au début du XXe siècle, hein, beaucoup travaillent dans le domaine de l'abstraction géométrique. Hein. Quand on voit une œuvre comme ça, on a l'impression que c'est tout récent. Une œuvre qui a quasiment un siècle, hein. Je vous rappelle quand même. Hein. Ça, c'est hyper... Là, ce que vous voyez là est hyper classique. Hein. Ça, c'est totalement classique. Hein. On n'est pas du tout dans la peinture contemporaine d'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est déjà... C'est plus âgé que nous. Hein. On est là devant quelque chose de tout à fait classique. Hein. Effectivement. Alors, on verra si c'est russe ou pas. Alors là, on est devant une œuvre. Alors, le portrait, c'est quoi ?
C'est peut-être un autoportrait.
Ça pourrait être un autoportrait. Alors, ça n'en est pas un, ça pourrait en être un, effectivement.
Les années 1900.
Pardon ?
Les années... L'expression de la garçonne.
Alors, c'est vrai que c'est une œuvre qui fait beaucoup penser aux œuvres expressionnistes allemandes. Hein. Vous savez qu'en Allemagne, effectivement, c'est développé entre les deux guerres. Hein. Un courant qu'on appelle l'expressionnisme, un courant qui, d'une certaine manière... L'expressionnisme allemand, qu'est-ce qu'il a fait, finalement ? C'était quoi le but de l'expressionnisme allemand ?
Une révolte.
Oui, et picturalement, le but, c'était quoi ? Artistiquement. Les expressionnistes allemands, qu'est-ce qu'ils exprimaient par leur peinture ? Ou qu'est-ce que leur peinture exprimait, plus exactement ? C'est sûr. Et donc, ça se traduisait comment, picturalement parlant ?
C'était pas toujours très beau.
Ça, la beauté, c'est très subjectif. Hein. Quelqu'un trouvera beau quelque chose que quelqu'un d'autre à côté ne trouvera pas beau. Ça, la beauté. Pardon ? Oui, alors, les expressionnistes peuvent faire des choses avec des couleurs très vives. Hein. Très, très vives. Hein. Il y a des choses jaunes, oranges, rouges, bleues, etc. Donc, le côté sombre n'est pas forcément une caractéristique de l'expressionnisme. Hein. Je dirais que finalement, si on voulait synthétiser l'expressionnisme, on parlerait peut-être d'outrance. Ça peut être une outrance dans le geste, hein, on voit des figures en train de danser, etc. Ou une outrance dans le réalisme. Là, on serait plutôt là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus réel que la réalité dans une œuvre telle que celle-ci. Hein. Alors effectivement, on pourrait dire que cette œuvre appartient... à un certain courant expressionniste. On verra que ce n'est pas une œuvre allemande, mais on pourrait parler là...
Américaine.
Oui, effectivement. Effectivement. Et là. Alors là aussi, le sujet, il n'y en a pas. Hein. Enfin, il n'y en a pas. Le sujet, c'est ce que vous voyez, c'est-à-dire des carrés de couleurs. Hein, c'est tout. Hein. Une idée du courant, là aussi, alors là, ce n'est pas très compliqué, auquel ça appartient.
Abstraction géométrique,
hein, qui est vraiment un des courants récurrents du XXe siècle. Là aussi, une idée peut-être du pays, de l'auteur. On vient lui consacrer une exposition au Centre Pompidou. Hein. Non ? On vient. Ça fait quelques années déjà. Non. C'est une bonne française. Mais qui est à peu près inconnue en France, connue partout ailleurs, mais les Français l'ignorent largement. Là. Mais elle est tout à fait française. Mais on en reparlera. Hein. Et ça. Oui. Je vous en passe des drôles de choses aujourd'hui. Hein. Ouais. Pas d'idée particulière ? Oui, vous avez raison, c'est une sorte de gros plan sur un élément végétal. Et l'artiste qui a fait ça, effectivement, généralement faisait des espèces de focus sur des fleurs, Oui, absolument. C'est tout à fait l'idée. On a l'impression d'une sorte de pistil, mais finalement, à agrandir le détail, ça en devient presque abstrait. C'est tellement la réalité que c'est plus regardable. Enfin, on ne sait pas ce que ça représente. Hein. Vous savez, quand vous regardez dans un microscope des choses, vous êtes très étonné. Hein. On croit quelquefois que quand on voit trois carrés et un cercle, c'est complètement abstrait, pas du tout. Il suffit de regarder de très près certaines matières et vous voyez des choses aussi géométriques que ce qu'on vient de voir. Hein. Donc l'idée de l'abstraction, ça. Ça, je vous l'avais déjà passé. Voilà. Là, vous connaissez même l'artiste. Hein. Donc rappelez de qui il s'agit. Pour que tout le monde entende bien. Voilà, Séraphine de Senlis, on appelait ainsi parce qu'elle habitait à Senlis. À quel courant plastique appartient la dite Séraphine, qu'on appelle en effet généralement Séraphine, hein. Voilà, art brut. Hein. L'art brut, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on pourrait qualifier l'art brut? Voilà, c'est ça. L'art pas appris, c'est-à-dire que l'art brut est fait par des gens qui sont des autodidactes, hein, qui n'ont pas été dans des écoles d'art, mais qui un jour, paf, se mettent à peindre. Hein. Quelle est aussi, parfois, souvent, une caractéristique des artistes bruts? Voilà, c'est qu'ils ont, des questions mentales, alors plus ou moins... compliqué, mais effectivement, il y a, on va dire, des interrogations mentales. C'était d'ailleurs le cas pour Séraphine de Senlis. Et cette œuvre-là, alors, on est tout à fait dans l'abstraction. De quoi vous pourriez rapprocher cette œuvre-là? Je signale que toutes ces œuvres sont d'artistes différentes. Hein. Il n'y a pas deux œuvres de la même artiste. Hein. Un début d'incendie, mais ça vous rappelle quelle autre œuvre peut-être on a vue depuis tout à l'heure? Voilà, en effet, ça nous fait penser à l'action painting. Hein. Vous vous rappelez de cette œuvre très colorée qui nous a permis de parler de Pollock tout à l'heure? On est là dans quelque chose de très équivalent. Hein. Voilà, hein. Là, une œuvre effectivement de Tamara Dlenpica. Hein, je vous l'avais déjà passé au moment de la première séance. Hein, c'est un petit rappel. Vous la placeriez dans quel courant? Pardon? On pourrait dire d'une certaine manière une sorte. Alors, plus que Picasso, qui est quand même quelqu'un de plus. Entre guillemets, abstrait que ça. Picasso n'a jamais été abstrait. Hein,
au
mais...
début, quand même.
Pardon
au début,
ah oui, au départ, oui, c'est vrai. Départ. Oui, vous avez raison. Vous parliez d'expressionnisme tout à l'heure, c'est pas mal, je trouve. C'est-à-dire que c'est toujours difficile hein, de classer les artistes dans des cases, hein, mais il est vrai qu'on a là quelque chose qui peut nous rappeler le portrait qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous savez, cette espèce de manière de pousser le réalisme à l'air outré. Cette espèce d'expressionnisme-là, et on pourrait dire, en effet, que Tamara Dlenpica, l'auteur de cela, qui revient de l'Est, hein, est quelque part une artiste expressionniste. Ouais, je vous l'avais montré aussi.
C'est japonais, ça. Mais qui c'est, ça?
On l'a vu. Oui, on l'a vu. Ah, mais oui, je fais réviser les grands classiques, hein. Ça fait penser à Modigliani, effectivement. Je trouve que ce n'est pas Modigliani, qui est un monsieur. Donc c'est sa compagne.
Oui.
Sa compagne. Et qui s'appelle comment?
Jeanne
et Luterne. Jeanne et Luterne. Alors bien entendu, on a comme toujours... Hein, On se souvient de Modigliani, on ne se souvient pas de Jeanne Hébuterne. Pourtant, lui, il est passé à la trappe. Hein. Tout à fait injuste. Hein. Voilà donc une œuvre de Jeanne Hébuterne. Cette œuvre-là aussi, vous la mettriez dans proche de quel courant du XXe siècle, peut-être? Qu'est-ce qui finalement s'impose dans une œuvre telle que celle-là? Qu'est-ce qui intéresse visiblement l'artiste?
Le regard.
Oui.
Les couleurs.
Et quels sont ces artistes qui s'intéressent tellement aux couleurs?
Oh,
les fauves. Hein. Quelque part, on pourrait dire qu'on est là dans une sorte de... chez une artiste plus ou moins fauve. Encore une fois, c'est dur hein, de faire des cases, mais on est quand même là-dedans. Ah. Donc là, Sonia Delaunay, hein, bon, voilà, très proche de son mari Robert Delaunay, à moins que ce soit l'inverse. Robert qui soit très proche de Sonia. Hein. C'est pas quelle est la poule et qui est l'œuf qu'on peut faire. Hein. Peut-être les deux, d'ailleurs. Hein. Bon, là, on est dans quel courant plastique ? Voilà, on est toujours dans l'abstraction géométrique. Hein. Ok. Et là ? Sujet ? Un visage.
Mais c'est vraiment le moins de trait possible.
Une sorte de masque, oui, le moins de trait possible, effectivement. Une idée d'un courant plastique, voire d'une auteure, très célèbre par ailleurs. Très très célèbre.
Ça commence par quelle lettre ?
Ah, je vous le dis à chaque fois.
Il y en a combien ?
Je vous l'épelle peut-être. Oui, bon, on verra tout à l'heure. Alors là, voici Frida Kahlo. Voilà, tout le monde connaît. Bon, Frida Kahlo. Là aussi, Frida Kahlo, on la met plus ou moins dans quelle grande famille artistique ? Surréalisme, voilà, hein, voilà. Encore une fois, c'est un peu compliqué, c'est trop simple de caser tout le monde dans les cas, mais enfin, ça nous permet quand même d'avoir une grille de lecture qui, je crois, est efficiente. Très bien. Et ça ? Dada. Là, c'est facile. Hein. Je vous ai servi la soupe, si j'ose dire. Hein. C'est une œuvre dada, dadaïste. Hein. Vous me rappelez peut-être ce que c'est que ce courant dada entre les deux guerres. Et l'idée, c'est quoi ? Oui, alors il y a une dimension spontanée, c'est plutôt centre de l'Europe, ouest de l'Europe, oui, effectivement. Et l'idée c'est quoi ? C'est quoi l'idée de l'art dada ? Du dadaïsme. Voilà, une sorte d'absurdité. Hein. Il est vrai que le monde à l'époque est relativement absurde. Alors autant le dire, hein. Ça allait d'ailleurs mal se terminer, comme vous le savez, ou mal se poursuivre. Ben, les dadaïstes sont des gens, effectivement, qui prennent acte de la dégradation du monde, et puisque le monde marche sur la tête, eh bien, l'art doit marcher sur la tête aussi. Hein ? C'est fait comment, ça ? C'est un collage. Hein ? C'est un collage. Donc, il y a des tas de choses découpées, collées ensemble. Très bien. Oui, je vous l'avais montré aussi.
Oui,
il y a une dizaine d'œuvres que je vous avais déjà montrées. Hein.
Il y a un côté rayonnant.
Un côté rayonnant, absolument. Une idée là aussi de l'école à laquelle se rattache cette œuvre, peut-être le pays d'origine. Après, on verra la chronologie, on classera tout ça dans un ordre. Hein. Dans l'Est ?
Russie.
Russie. On est en Russie. Comment est-ce qu'on les appelle, d'ailleurs, ces artistes russes si novateurs du XXe siècle ? Ils vont construire... Alors, il y a eu les suprématistes, effectivement, hein, avec Malevitch. Hein, mais c'est vrai qu'ils construisent comme ça des... œuvres avec, en effet, quelquefois, cette dynamique rayonnante que vous voyez là. Bon, on les appelle les constructivistes. Hein ? Voilà une œuvre constructiviste d'une artiste dont nous reparlerons.
Une expo à Paris.
Sur les constructivistes ?
Non, sur elle.
Ah, sur elle. Alors, c'est qui ? Non, pas italienne.
La mère du trio.
Voilà, c'est Suzanne Valadon. Alors là aussi, vous la, on peut la placer dans quelle mouvance, Suzanne Valadon ? Dans un tableau tel que celui-ci, qu'est-ce qui, au-delà du sujet, cette femme accortement couchée ?
Couleur.
Couleur, voilà. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est là aussi dans cette mouvance du fauvisme. Hein. Ce qui compte là, c'est la couleur, la forme, la couleur, les aplats. Hein. Le fauvisme, effectivement. Alors ça, quel courant pictural peut permettre de rattacher ces deux œuvres ? Plutôt surréalisme, effectivement. Une idée d'un pays, d'une artiste, éventuellement ? Non ? Non. Partiellement, oui, américaine. Mais pas que. À vrai dire, elle était franco-américaine. Mais on verra. C'est Vera da Silva. Vous avez là une œuvre de Vera da Silva. Pouvez nous dire un peu de qui il s'agit, peut-être ? Portugaise, hein, Vera da Silva, c'est une artiste portugaise qui appartient, on l'a cité tout à l'heure, ce courant, un courant artistique qui a eu notamment en France son heure de gloire.
C'est l'abstraction lyrique.
Voilà, l'abstraction lyrique. Hein, Vera da Silva, c'est ça, c'est l'abstraction lyrique, très différente de l'action painting. Hein, action painting, un côté brutal. L'abstraction lyrique était abstraite, plus ou moins d'ailleurs. Hein, Vera da Silva est quelquefois assez lié à la réalité, mais il y a l'idée d'une sorte d'équilibre. Le geste ne doit pas tout faire, il doit être tempéré. Hein. Le grand nom de l'abstraction lyrique, c'est Georges Mathieu. Hein. Vera da Silva est quelqu'un que l'on peut mettre dans cette mouvance-là. Il y a un lieu en Bourgogne où on en voit des tonnes de Vera da Silva. C'est le musée des Beaux-Arts de Dijon. Au musée des Beaux-Arts de Dijon, la capitale de notre province, hein, vous verrez des dizaines d'œuvres de Vera da Silva. Hein. Voilà. Et puis ça, oh là c'est facile, vous avez même son nom qui est marqué.
Hélène,
mais après
c'est une nordique.
Oui, exact, c'est une nordique.
Ça a pris le nom comme ça.
Ouais, c'est une nordique, très au nord même. Ça vous dit quelque chose ? Et le sujet ? Un portrait,
un autoportrait.
Hein, c'est évidemment un autoportrait où l'artiste s'est figuré à représenter son nom. Alors, puisqu'on est au retour à la case départ, essayons maintenant un peu de classer tout ça, hein, et de voir si on est plutôt au début, plutôt au milieu, plutôt à la fin du XXe siècle. On va essayer d'organiser tout ça de manière un peu cohérente, manière évidemment de comprendre comment les mouvements artistiques s'organisent au XXe siècle. Hein. Puisqu'on a fait l'année dernière un atelier sur la peinture au XXe siècle, il n'y a aucun problème. Hein. Alors, ça, cette œuvre-là, on est plutôt au début, on est plutôt au milieu, on est plutôt à la fin.
Milieu.
Plutôt au milieu. Donc dans les années 50. Ouais.
Non, avant.
Avant. Avant. Dans les années 20. Ouais. Tout le monde est... Qu'est-ce que vous voyez ? Plutôt milieu, plutôt début du XXe siècle. Il y a les tenants du début, il y a les tenants du milieu. Mais on va essayer de dégager une majorité.
Hein ?
Plutôt milieu ?
Oui.
Plutôt milieu. Personne n'a une idée de l'auteur qui a fait l'objet d'une exposition à Paris, tout récemment.
Hélène.
Ou elle a un nom imprononçable.
C'est pour ça que tu...
Bon, c'est pour ça. Bon, donc voilà un tableau d'une artiste du Nord, hein, vous aviez bien dit, hein, au nom imprononçable, on en parlera tout à l'heure, et un tableau qui m'a aidé plutôt vers le milieu du 20e, c'est ça, hein. Tout le monde est OK avec ça ? Bien. Allez, alors là, vous avez tout dit, hein. Une œuvre de Vera da Silva, d'accord, très bien, artiste portugaise, enfin d'origine portugaise, elle a beaucoup vécu en France, hein. Abstraction lyrique, une idée de la date de la période, j'entends. Hein.
On dirait de la
Il y a un côté très architecturé. Vous avez raison, d'ailleurs, cette œuvre s'appelle, je crois, la bibliothèque. Donc, effectivement, il y a un côté... Vera da Silva, on le disait tout à l'heure, contrairement à d'autres membres de l'abstraction lyrique, elle flirte toujours avec un sujet, avec une réalité. Vous mettriez ça quand ? Plutôt début, plutôt milieu, plutôt fin du XXe siècle ? Plutôt milieu. Donc, milieu du XXe siècle, Vera da Silva. Bien. Troisièmement, donc une artiste surréaliste, hein, vous aviez bien identifié ça. On a dit qu'elle était à la fois américaine et française. Bien. Toujours pas d'idée de nom. Non. Bon. Et ben même demande, hein. Milieu, début, fin.
Début.
Donc on est là au tout début du XXe siècle.
C'est vrai ou c'est pas vrai?
Ah ben, vous allez voir après. Là, je ne fais que solliciter les avis. Nous corrigerons les copies tout à l'heure. Vous allez voir. Hein. Pour l'instant, nous collectons la moisson. Hein. Voilà.
Non. Ah, plutôt des...
Suzanne Valadon, un tableau... pardon.
Les fauvistes.
Donc on est quand, là?
Début
20. Alors, notre russe... qui appartient à un courant qui s'appelle, tiens, le constructivisme. Hein. Cette œuvre constructiviste d'une artiste russe, et le nom, personne ne... Non. Et on est quand ?
Post-révolutionnaire, probablement.
Post-révolutionnaire, oui.
Alors, je pense à Goncharova, mais...
Goncharova, c'est Natalia Goncharova. Hein. C'est une œuvre de Natalia Goncharova, hein, très importante artiste constructiviste russe, hein? Goncharova, comme ça se prononce. Goncharova. Le russe, hein, c'est très simple.
Et son mari, c'est Larionov.
Absolument.
C'est peintre aussi.
Peintre aussi.
On dirait une vierge à l'enfant, non? Moi, je vois deux têtes.
Ou
un visage.
Je ne suis pas très sûr. Hein,
il y a peut-être un peu un oiseau en bas. Mais
enfin... Oui, je pense qu'il faut. Oui, enfin, y a... En tout cas, c'est dynamique, c'est rayonnant, ça bouge. Hein? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, et quand on est? Voilà ce que je voulais dire. On est quand, là?
1920, à peu près.
1920, donc plutôt début?
Oui.
Premier tiers. Tout le monde est OK avec ça? Ouais. Hein? Alors, cette œuvre dadaïste dont on a parlé tout à l'heure, ben voilà, forcément, c'est entre les deux guerres. Hein. Donc, on est entre 19 et 39. Hein.
Les années 25.
Voilà, années 25, on va voir ce que ça donne. Hein. Okay. Frida Kahlo. Tiens, elle est originaire d'où ?
Mexique.
Artiste mexicaine. Hein. Artiste mexicaine. Et là, on est quand, à peu près ? Début 20e ?
Milieu.
Parce que Rivero, son mari,
de Trotsky,
et puis Rivero, il est venu voir.
Voilà, donc vous parliez en effet de sa rencontre. Elle a en effet connu Trotsky quand Trotsky était exilé au Mexique. Et vous avez parlé d'un autre peintre. Rivera, hein. Rivera, Diego Rivera. C'est qui Diego Rivera? Alors voilà, c'était son compagnon. Hein. On ne se marie pas quand on s'appelle Frida Kahlo. Hein. Son compagnon. Hein. Voilà, je ne crois pas qu'ils étaient mariés, effectivement. Mais s'ils étaient mariés. Ah ben j'étais marié.
Ils sont séparés, ils sont
stars. Ça a été très compliqué. Hein. Ouais. Et Rivera, alors c'est Diego Rivera, c'est qui, c'est quoi?
La mairie de Mexico.
Voilà. Hein. En tout cas, les grandes peintures. Hein. Alors, fresque, pas toujours. Enfin, peinture murale, en tout cas. Hein. Voilà. Des grandes. Vous savez que la fresque, c'est une technique de la peinture murale. Hein. Fresque ne veut pas dire peinture murale. Hein. La fresque, c'est une des techniques de la peinture murale. Donc, quand on ne sait pas, quand on voit que c'est une peinture murale, qu'on ne sait pas si c'est une fresque ou pas, pour mieux dire peinture murale, on ne se trompe pas. Fresque, ça veut dire peinture faite à fresco, sur un enduit frais. Hein. Et en effet, Diego Rivera, c'est le grand muraliste mexicain, hein. Le centre de Mexico est farci de bâtiments qui ont été décorés par Diego Rivera, des œuvres immenses, superbes. Hein. Et en effet, Frida Kahlo est un peu la muse. Donc ça ne me dit pas l'époque, ça, quand même.
C'est le milieu.
Milieu, autour de 50. OK. Et là.
Mystère.
Bon, une idée quand même. On est au début, on est à la fin, on est au milieu. On est où, là? Pas au début.
Mais ça pourrait être Matisse quand il faisait...
Ça fait penser à Matisse, je suis d'accord avec vous. Il fait beaucoup penser à Matisse, sauf que Matisse est un monsieur et que là, c'est une dame.
Voilà. Non, mais c'est un peu...
Mais ça fait penser à ça, je suis d'accord avec vous. Il y a un côté très matissé, hein. Ouais. Ça fait penser à...
Aux peintures par les malades psychiatriques.
Ah oui, ça fait... Ça, ben, à l'art brut, hein. Ça fait penser à une œuvre brute. On est là, effectivement, à quelque chose qui est un peu entre les deux. Vous allez voir, d'ailleurs, c'est pas le cas, hein, mais effectivement, on est là dans une œuvre qu'on peut faire penser à l'art brut, hein, et notamment ces deux yeux tellement prenants, hein, peuvent tellement présents, peuvent faire penser à ça. Je crois que vous serez étonné de l'auteur et du sujet. Pas d'idée d'auteur ? Pas d'idée de sujet ?
Le sujet, c'est un visage.
Oui, mais qui ?
De qui ?
Peut-être d'elle.
Pas un autoportrait, non ?
Peut-être non. D'un homme ou d'une femme ?
D'un homme.
D'un homme.
D'un homme. Pas mythique, non.
Politique.
Ah oui, pas politique.
Il y a une expression dans la bouche
oui,
qui est terrible.
Pardon.
Il y a une expression dans la bouche qui est terrible.
Très amère.
Ben, il avait des raisons.
Toc, toc, toc.
Pas d'idée, ni du sujet, ni de... Non. Bon, on va en parler. Vous ne m'avez pas dit c'était début, milieu ou fin ? Fin ? Plutôt tardif, alors. Hein. Donc, tardif. Sonia Delaunay, on en a parlé, ça c'est facile. Là aussi, début, milieu, fin. Encore une fois, l'idée à partir de ça est de nous reconstruire une histoire de la peinture au XXe siècle en Occident à partir d'œuvres d'artistes femmes. Hein. L'enjeu, il est celui d'essayer de comprendre comment s'organisent les courants picturaux de l'Occident, à partir de ces œuvres qui sont des œuvres d'artistes femmes. Donc là, on est quoi ? On est milieu. Milieu. Ok. Jeanne Buterne, donc, la compagne de Modigliani. Là, je suis sûr qu'ils ne se sont pas mariés.
Premier tiers. Premier tiers.
Début. Tamara de Lempicka.
C'est la
coiffure et la garçonne. Oui, coiffure, comme vous dites. À la garçonne. Hein. Tu sais, c'est coiffure. C'est le moment où les femmes adorent ressembler à des hommes. Hein. Voilà.
C'est 1925.
Donc, les années 20, effectivement. Hein. Années 20, d'accord. Bien. Encore une fois, on verra après. Hein. Mais Tamara de Lempicka, années 20. Et ça. Là aussi, vous n'aviez pas d'idée tout à l'heure d'auteur, mais on a peut-être une idée de période. Fin du XXe ? Milieu ?
Deuxième moitié.
Deuxième moitié.
C'est plus construit que Nikita.
Ouais. Alors Mathieu est plus lyrique, sauf à la fin de sa vie, où il a fait des choses très étonnantes qu'on ne nous montre jamais d'ailleurs. Il a fait des choses très comme ça, effectivement, à la fin de sa vie, mais autrement, Mathieu est quelqu'un de beaucoup plus... C'est la version lyrique. En fait, c'est très construit, c'est très, très sage par rapport à ça. Là, c'est beaucoup plus contondant. Hein. Une femme qui a embouté le truc. Hein. On verra qui c'est. Hein. Donc, on disait plutôt fin 20e, à partir de la deuxième moitié. Hein. Voilà. Notre chère Séraphine. Ouais. Plutôt fin.
Non,
fin de la première moitié. Fin de la première moitié. Oula, là, ça devient compliqué. Fin de la première moitié. Alors là. Pardon ?
Ça, c'est Georgia Popper.
Absolument. Tout à fait.
Il y a une exposition à Grenoble, mais pas très longtemps.
Eh ben voilà. C'est d'elle, effectivement.
C'est. Quel nom ?
Georgia O'Keeffe. Voilà.
Et ça s'écrit
O, c'est, elle est d'origine irlandaise. Hein. O,
apostrophe,
K, 2EFE.
Pas du tout.
Ou 2F, je ne sais plus. Enfin, vous verrez tout à l'heure. Je ne sais jamais s'il y a 2E, 2F, 2E, 1F, 1E, 2F. Enfin, vous verrez, ces genres de noms. Enfin, moi, j'arrive jamais à moi. Et quand est-ce que vous voyez ça? Année 20? Non, fin. 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 OK. Et là? Là, on est au début, on est à la fin, on est au milieu, et on est avec qui? Ça ne vous inspire pas beaucoup. Et donc, vous voyez ça quand? Première moitié? Les années 40? Avant là, avant encore? J'ai l'impression de vendre des fruits au kilo. Bon, on verra. Une peinture, une peintresse française du 20e, on devrait tous la connaître par cœur. Hein. Ah oui. Mais on la connaîtra parfaitement à la fin de la séance. Alors, c'est effectivement une artiste américaine. Pardon, je crois que j'ai entendu son nom. Oui.
C'est un peu le hasard.
Oui, c'est un peu le hasard.
Les portraits.
Oui. Elle s'appelle Brooks. Romaine Brooks. Et vous situeriez ça quand? Ouais, un peu comme
la
qui
garçonne.
Comme la garçon. Oui, voilà, on a hein, un peu comme la garçonne tout à l'heure. Un peu comme la peinture de qui déjà?
L'Empire.
Ok, on verra tout ça dans un instant. Et là? Année 50? Oui. Non, toujours pas d'idée de l'auteur. Années 50. Et cet action painting-là, vous nous mettez ça quand? Deuxième moitié. Une idée du pays où ça a été réalisé. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça vous paraît, je ne sais plus. Pardon, États-Unis. Ok. C'est-à-dire que la plupart des gens que je vous montre là, vous les aviez listés au moment de la première séance. Vous vous rappelez la première séance?
Oui. Hein?
Eh bien, la plupart des gens qui sont là, c'est des noms que vous avez cités. J'ai dû en rajouter une ou deux. Donc les noms ne sont pas venus de moi, hein? Ils sont venus de vous. C'est le cas de, par exemple, cet auteur-là. Non, ça vous dit rien? Vous mettez ça quand? Allez, on arrondit. Deuxième moitié? Non, parce qu'on a vu une autre œuvre de Léonore Fini,
oui.
Puisque chaque. Voilà, vous savez, la gardienne d'œuvre.
Oui. Oui.
Et je n'ai mis qu'une œuvre par artiste, hein, pour laisser de la place à tout le monde.
C'est sûr.
Alors, plutôt début, plutôt fin, plutôt milieu. Allez, plutôt milieu. Et ça?
Et
deuxième moitié. Et là? Léonore Fini. Et on est quand, là?
Les années 60.
Années 60. Très bien. Bien. Correction des copies. J'enlève mon couleuvre parce que ça va être nécessaire.
Il y a des choses à corriger, je vois.
Oui, non. Non, non, ça pourrait être bien, bien pire. Non, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Sauf qu'il y a ça. Il y a ça, il y a ça. Parce que maintenant, je vais vous passer les œuvres dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire que ce que vous avez vu là, vous aviez placé à la fin du 20e, c'est la plus ancienne des œuvres que je vous ai montrées. Eh oui. De qui est-ce que ça peut être? Ah, je vais vous faire deviner, parce que vous la connaissez tous et toutes. Hein. Une artiste très célèbre, pas du tout pour ça. Elle est connue, à mon avis, pour des œuvres beaucoup moins intéressantes, que je trouve, pour ma part, même un peu mièvres. Des petites dames un peu colorées, avec des petits bouquets de fleurs, etc. Pas très passionnant. Pourtant, c'est une artiste qui a bien connu certains des grands personnages du XXe siècle en France. Apollinaire, Picasso.
Marie-Laurencin.
Exactement.
Invraisemblable.
C'est une œuvre de Marie-Laurencin.
Mais c'est pas Apollinaire.
C'est pas Apollinaire.
Non, parce que...
non, c'est pas Apollinaire. C'est donc une œuvre de Marie-Laurencin. Beaucoup plus intéressante que la plupart des choses qu'on voit d'elle. Hein. Bon. Mais c'est qui, à votre avis, qui est représenté là? Un personnage pas hyper connu, mais connu quand même. Un poète important. C'est pas Cocteau. C'est pas très loin. Un personnage qui a eu vraiment une importance énorme en France et dans les milieux intellectuels de la première moitié du XXe siècle en France. Pas breton.
Ah oui. Il était juif.
Pas Vian, pas Apollinaire. Pas Aragon, pardon.
Max Jacob.
C'est Max Jacob. Ça, c'est à mon avis, un des grands chefs-d'œuvre de Marie-Laurencin, hein, à qui, il y a quelques années, par le musée des Beaux-Arts d'Orléans, d'où est originaire Max Jacob. Hein. Sublime portrait de Max Jacob, hein, un tableau splendide, et ça fonctionnait. Hein. Vous avez tous été assez portés par ce tableau. 1909, hein, ça a plus d'un siècle, ça. Hein. 110 ans. Hein. Hein. Là, c'est du Marie-Laurencin qui sait ce qu'elle fait. Hein. Ce n'est pas des petites filles à fleur-fleur. Hein. On est là vraiment dans de la vraie peinture. Hein. Tableau extraordinaire et qui présente un personnage. Bon, vous savez qu'il a été déporté. Enfin, il y a eu un sort terrible. Hein. Mais un immense poète, un personnage d'un intellectuellement fascinant que Max Jacob. Hein, et ça, c'est le portrait par Marie-Laurencin de Max Jacob. Hein, vraiment une œuvre. Formidable, c'est un petit tableau. Hein. Vous parliez de Matisse tout à l'heure, c'est pas faux. Hein. Matisse a fait aussi, presque au même moment, des petits tableaux comme ça, figurant des petits portraits. Et en effet, on n'est pas très loin, hein, dans les mêmes années. Hein. C'est donc évidemment très intéressant. Marie-Laurencin. Alors là, vous aviez trouvé. Hein. Ça, c'est une œuvre, effectivement, de cette constructiviste russe qu'est Natalia Goncharova. Hein. Je crois que vous l'aviez bien daté tout à l'heure, mais je me sens que vous l'aviez daté un peu plus tardivement dans le siècle. Hein. Là, on est quand même très tôt. Hein. On est en 1913.
Ah oui.
On est avant même la Première Guerre mondiale. Hein. Hein. On est là devant des œuvres très, très... Oui, la lampe, quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est lumineux, etc. De fait, il y a de l'éclat. Voilà, donc vous voyez, les constructivistes sont des gens qui travaillent très très tôt. Hein. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, la révolution bolchevique, hein, va leur créer plus de problèmes que l'inverse. Hein. Parce que très vite, à vrai dire, on va trouver que c'est une peinture dégénérée. On a entendu cette musique-là en Allemagne et dans le Reich, hein, un peu plus tard aussi. Hein. Ces artistes-là étaient détestés par... tout ce que l'Europe comptait d'extrême, à droite comme à gauche, hein, bien entendu. Hein. C'est des gens créateurs, des gens à l'esprit ouvert, des gens cosmopolites, autant de choses que les fachos comme les bolchos détestaient, évidemment. Donc, une œuvre fondamentale de Natalia Goncharova. Très belle chose. Hein. Ah ouais, Hélène. Alors ça, vous voyez que c'est très tôt. Hein. C'est la troisième œuvre que je vous montre chronologiquement parlant. Donc on n'est pas du tout ni au milieu ni à la fin. On est au tout début du XXe siècle. Cette femme, elle s'appelle Hélène Schwerzbeck. Ça ne s'invente pas. Hein. Et ne me dites pas comment ça s'écrit, je ne sais jamais. Quand j'écris son nom, il faut toujours que je regarde, parce que je ne sais jamais. Il y a des tas de S, des H, des E, des B, etc. Bien. À votre avis, elle est de quel pays, cette Hélène Schwerzbeck?
Nordique.
Alors elle est nordique, elle n'est pas suédoise, elle est décédée, elle n'est pas norvégienne, elle est décédée en Suède si je ne m'abuse, mais elle est finlandaise, absolument, hein. C'est une finlandaise, hein. si vous allez au musée de Helsinki, vous verrez de très nombreuses œuvres admirables de Helen Schwerzbeck. On ne la connaît pas du tout en France, on a bien tort. Il y a quand même une exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris, il y a 4 ans, hein, des autoportraits d'Helen Schwerzbeck. Hein. Voilà. Il y a des. Enfin, c'est voilà. Voilà, ça s'écrit comme ça, ne demandez pas des plaies, c'est plutôt. Donc ça s'écrit S-C-H-J-E-R-F-B-E-C-K. Hein? Voilà. C'est 1915, ça. Hein? Hein? Donc on est très tôt. Finalement, c'est une peinture assez fauve. Hein? On est là avec des aplats de couleurs. Alors là, les couleurs, c'est du noir, hein, ok. Mais les fauves, c'est-à-dire que le noir est aussi une couleur, si j'ose dire, même si c'est une valeur. Hein. Helen Schwerzbeck. Ça, on est d'accord, Jeanne Buterne. Un tableau très fauve, on est là en 1917, et ça, vous aviez trouvé, parce qu'on avait vu comment c'était proche de Bobilly, elle est bien. Donc, pas de problème.
Oh, mais elle est morte très jeune.
Elle est morte très très jeune. Ben, en fait, dès qu'elle s'est suicidée. Hein. Voilà, c'est ce que parle. Absolument. Après la mort de Modigliani, elle s'est suicidée.
Elle était enceinte.
Oui, elle était enceinte. Donc c'est une histoire très très triste. Et c'est aussi un cas typique de ces artistes femmes qui ont fait un travail tout à fait passionnant. Ce que vous avez là date du 1917, ce n'est pas un tableau secondaire. Hein. Vous êtes là devant quelque chose qui peut être accroché à côté de tableau de Matisse, là aussi, hein, ou de Derain. Hein. Seulement, voilà, c'est la femme de monsieur, si j'ose dire, et dont on n'en parle pas. C'est très injuste. Ben, il est temps de revenir là-dessus. Ça, vous aviez bien trouvé aussi. Hein. Faut dire que c'est marqué da-da-da-da-da-da-da partout, donc il n'y a pas trop à se tromper. Par contre, on connaît assez peu l'auteur, qui s'appelle en fait Anna Hoesch. Donc, qui est une artiste dada. Quand on regarde ça aujourd'hui d'un œil lointain, on se dit « Oh bah oui, oh bah 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 ». On a bien tort, hein. Parce que ça, ça a été fait par des gens qui mouillaient leur chemise, hein. À un moment où, on est en 1919, hein, l'Allemagne va quand même petit à petit connaître une période un peu compliquée, comme vous le savez, qui va pas très bien se poursuivre. Là, vous êtes devant les œuvres de gens contestaient via leur création l'Allemagne du temps. D'ailleurs, quand vous lisez le titre, hein, coupe au couteau de cuisine à travers la dernière époque culturelle ventripotente allemande de Weimar, hein, critique de la République du même nom. Donc on voit bien quand même qu'on est là devant des gens. Anna Hoesch n'était pas une. C'est une militante, si vous voulez. Hein. Donc c'est des gens qui sont à la fois militants et qui prennent. Qui utilisent la dimension plastique dans le militantisme politique, hein, et qui sont courageux, hein, parce que aujourd'hui c'est pas trop compliqué en France de faire des choses, hein. À l'époque ça l'est, hein. D'ailleurs tous ces gens-là, Gontcharova comme d'autres, hein, sont quelquefois obligés d'émigrer, hein. Et d'ailleurs la France a été une des grandes plaques tournantes d'émigration que ces gens-là, hein. On l'oublie ça aujourd'hui, hein. On a su les accueillir ces gens-là. Des tas de gens qui fuyaient les lieux où ils étaient, parce qu'ils n'avaient pas le choix, on les flinguait, et bien la France a su les accueillir. Tous ces artistes-là ont été en grande partie formés en France. Il faut le savoir, ça aussi. Alors ça, vous aviez trouvé. Hein, vous aviez trouvé ça. C'est notre fameuse Georgia O'Keeffe. Hein. Voilà, alors c'est 2E1F. O, apostrophe, K-E-E-F-E. Hein. Alors, vous nous disiez tout à l'heure, quelqu'un l'avait trouvé, en effet, O'Keeffe. Oui, alors vous aviez trouvé l'artiste, hein, et vous nous aviez parlé du fait que souvent O'Keeffe prenait, dégageait des détails, notamment de pistils de flotte, hein, pour faire à partir du détail des choses énormes, hein, et très étonnantes. Hein. Je pense que c'est ça que montrait l'exposition de Grenoble, notamment. Hein.
Et le titre, c'est musique.
Oui, musique.
Alors, j'imagine.
Oui, 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 il y a une dimension vraiment très lyrique. Hein. Mais ça, vous aviez bien trouvé, on est dans les années 20. Hein. C'est un côté très art déco, quelque chose comme ça. Finalement, on est dans les années 20, c'est un petit siècle. Hein. On est vraiment dans l'époque art déco. Hein. On voit très très bien ça à cette période-là. Georgia O'Keeffe. Alors, notre Suzanne Valandon, on en a déjà parlé, vous aviez trouvé, ça ne pose pas de problème. On est effectivement dans la première moitié du siècle, hein, en 23. Bon, pas de problème, hein, c'est un artiste bien connu que Suzanne Valandon, après tout. Donc ça, c'est réglé. Là, vous aviez trouvé aussi. Hein. Vous aviez trouvé que c'était une artiste américaine, Romaine Brooks. Hein. Vous aviez également bien trouvé l'époque, les années 20, là aussi, l'époque Art déco, pour faire vite. Hein. Vous aviez bien parlé de la coiffure à la garçonne, enfin voilà. Donc c'est une Américaine qui a vécu un peu partout. Elle est née à Rome, elle est morte en France, mais elle est Américaine. Pardon, vous disiez ?
Non, c'est un monocle qu'elle a surveillé ?
Oui, oui, elle a un monocle.
Elle est morte 96 ans.
Ouais. Et décidément, on a déjà épilogué hein, sur ce côté, cet expressionnisme, alors qu'il est là, n'est pas allemand, hein, mais qui se rapproche d'un Autodix, par exemple. Hein. Et Tamara Lem Picard, vous aviez trouvé aussi, et on est exactement dans la même période, hein, 27, le rêve, hein, voilà. Donc tout ça, vous aviez trouvé, vous voyez, c'était pas mal. Hein. Et là aussi, vous aviez trouvé, Séraphine de Senlis. Alors, c'est très tôt, ça. Hein. C'est 28. Hein. Son Séraphine, elle meurt en 42. Donc, voilà, on est dans la première moitié du siècle. Ah, et ça. Ça, vous aviez, je crois, eu plutôt tendance à le dater bien plus tard. Hein. Alors, on est chez une artiste qui s'appelle Sophie Tauber-Arp. C'est la femme de Jean Harp. Voilà. C'est la femme de Hans Harp. Donc c'est une Suissesse qui a eu la bonne idée de naître à Davos, qu'on connaît aujourd'hui pour d'autres raisons, plus financières. Et elle fait en 31 cette composition-là. Sophie Tauber-Arp, elle a appartenu à des courants... très proche de gens comme Mondrian, hein, vous vous rappelez, on en avait parlé déjà. Hein. On est là vraiment dans le cœur de l'abstraction géométrique la plus radicale. En 31, donc. On ne sera pas étonné de trouver à peu près à la même époque en France Sonia Delaunay. Ça, vous l'aviez bien identifié. Bien vu également qu'on était là vers la fin des années 30. Vous aviez dit première moitié, ou je crois que vous aviez même dit fin de la première moitié du XXe siècle. On est en 38, c'est bon. Hein. Alors ça, par contre, c'est une œuvre plus compliquée. Enfin, vous aviez bien vu qu'il s'agissait d'une œuvre surréaliste, qu'il s'agissait d'un autoportrait. En fait, c'est d'une artiste qui s'appelle Carrington. À vrai dire, Carrington, il y en a deux. Il y a une Carrington qui est une Anglaise déjà, mais qui a vécu en Angleterre au début du XXe siècle, qui était très proche d'un homme qu'on appelle Lytton Strachey. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le groupe de Bloomsbury. Ça vous dit quelque chose, ça ? Le groupe de Bloomsbury, c'est un ensemble d'artistes et de poètes qui habitaient dans le quartier de Bloomsbury à Londres et qui étaient des intellectuels londoniens de la première moitié du XXe siècle. Hein. Voilà. Mais assez tôt. Hein. Et dans ce groupe, il y avait une artiste peintre qui s'appelait Carrington. Mais on a une Dora Carrington, d'ailleurs. Mais on a une deuxième qui s'appelle Carrington aussi. Je n'ai pas réussi à trouver s'il y avait un lien de parenté, je ne suis pas sûr. Mais qui s'appelle Eleonora Carrington et qui est une surréaliste. Elle a été très très proche d'un peintre surréaliste ultra célèbre. Lequel, à votre avis ? En voyant cette œuvre-là, on peut le deviner, je crois.
Dali ?
Pas Dali. Pardon ? Non. Pas Delvaux non plus.
Magritte ?
Pas Magritte. Pas Miro. Pas Duchamp. Ah, vous les citez tous, c'est bien. Mais... Sauf qu'il manque le peintre qui était son compagnon.
Donc américain ?
Non, il était d'origine allemande. Oh. Mais comme tous les... Pardon ?
Ça se compte.
Oui, Max Ernst. Hein. Oh. C'est la compagne de Max Ernst.
Hein. Ah bon ?
Oui, oui. Ah oui, oui. Oui. Et oui, ça vient du cœur. C'est la compagne de Max. Enfin, en tout cas, elle l'a été un temps parce que, avec le déclenchement de la guerre, ils ont dû l'un partir d'un côté, l'autre de l'autre. Enfin voilà. Et donc, elle a émigré au Mexique où elle a terminé sa vie. Hein. Donc un autoportrait qui date de la fin des années 30. Hein. On est quand même très tôt là. Hein. Très belle œuvre. Hein. Bon, ça, vous l'aviez bien identifié. On est avec Frida Kahlo. Hein. Pourquoi, entre parenthèses, cette peinture qui date de 46, on est au milieu du siècle, présente un daim blessé. Et d'ailleurs, c'est un daim blessé, vraiment, ça ? Voilà. 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 Vous savez, effectivement, mais il y a eu un film assez célèbre là-dessus, hein, vous avez sûrement vu. Hein. Voilà, et aussi, voilà, absolument. Hein. Et vous savez qu'un des gros traumatismes de Frida Kahlo a été ce fameux accident hein, qu'il a touché, voilà, dans le bus, hein, qu'il a touché quand elle était encore assez jeune, et qui fait que toute sa vie, elle a traîné de gros handicaps, hein, une souffrance terrible permanente qu'elle n'arrivait pas à éliminer. Hein. Tout le fait qu'elle se représente toujours en souffrance, quoi. Et en fait, le portrait que vous avez là, c'est le sien. Hein. Simplement, elle est en daim blessé.
Et puis elle a toujours les sourcils qui se rejoignent.
Ah, toujours, oui. Elle avait, oui. Absolument, on la reconnaît à ça. Ah, et ça. Alors là, en fait, vous la connaissez parce que vous me l'avez cité le premier jour où on a travaillé sur les femmes peintes, vous l'avez cité celle-là. C'est une artiste, alors vous avez bien dit hein, que c'était, attends, surréaliste, l'époque, oui, c'est milieu du XXe siècle. C'est une femme qui a beaucoup vécu aux États-Unis, mais qui est d'origine française, qui est décédée il y a un an, à peu près un an ou demi. Louise Bourgeois. C'est une œuvre de Louise Bourgeois. C'est une œuvre de Louise Bourgeois, donc une des papesses de l'art de la fin du XXe siècle. Louise Bourgeois, c'est un peu une icône comme ça. Une artiste qui a beaucoup flirté avec le surréaliste au départ, comme vous le voyez là, mais qui après va aller vers des choses beaucoup plus particulières. Hein. Là, on est devant une Louise Bourgeois très très sale. Très très sale.
C'est pour ça qu'elle utilise beaucoup le rouge.
Ah, ça c'était un personnage, Louise Bourgeois.
Oui,
ouais. Femme maison. Voilà, vous avez trouvé, hein. Elena Vera da Silva, donc pas de problème. On est au milieu du XXe siècle, ça vous l'aviez dit, on avait vu que ça représentait une bibliothèque, pas de problème, tout va bien, c'est réglé. Là, vous aviez trouvé aussi Léonore Fini, hein, une artiste surréaliste. On arrive dans la deuxième moitié du XXe siècle, si je ne m'abuse, 55. Voilà. Donc là, vous aviez trouvé pas de problème particulier. Ah! Là, ça commence à se corser. Hein. Là, on est vers un travail. Alors, Oxali, vous aviez bien situé ça dans la seconde moitié du siècle, et vous aviez raison. Par contre, l'artiste, c'est Judith Riegel, hein, qui est toujours vivante, Judith Riegel, d'ailleurs. Hein. Et Judith Riegel, qui vit en France, entre parenthèses, hein, qui est une artiste d'origine... Alors, je crois que c'est de Hongrie. Hein. Je crois que Kapuvar, c'est en Hongrie. Mais Judith Riegel a dû émigrer. Évidemment, en Hongrie, il y a quelques décennies, il faisait pas très bon faire des peintures comme ça. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Donc, Judith Riegel a trouvé asile dans notre pays. Et elle est aujourd'hui hein, une des grandes représentantes. Hein. Elle ne produit plus tellement. Hein, mais de cette peinture gestuelle, hein, dont vous voyez ici une œuvre, déjà ancienne, on est en 56. Hein. Très très bonne année, d'ailleurs, 1956, à mon avis. Et donc cette œuvre est une œuvre de Judith Riegel. Hein. Voilà. Ça, vous l'avez vu, hein. On est devant une œuvre de Nikita Saint-Phalle, on a dit comment ça avait été réalisé, on est en 61, hein. Ça a été réalisé avec des pistolets, des carabines, etc., la tirée dessus, donc quelque chose de volontairement assez dur, hein. À un moment où, évidemment, avec ça, elle pose la question du statut de la femme, hein. Parce qu'une femme peinte, forcément, doit faire des bouquets de fer avec un petit pinceau, évidemment, hein, bien sûr. Hein. Ben, elle fait l'inverse, elle prend une carabine et elle flingue sa toile, quoi. Hein. Tiens, exactement pas ce que l'on attend de la femme. Parce que la femme, elle est chez elle, garde les enfants, elle fait des petites peintures de fleurs sur des porcelaines, évidemment, hein, forcément. Hein. Et ben, elle est là pour montrer exactement l'inverse et de manière contondante. Et à un moment, il faut faire bouger le truc un peu quand même. Hein. Et ben, de manière contondante, elle va ben, flinguer sa peinture. Une manière vraiment d'y aller. Et puis une manière aussi d'inventer un travail qui est celui de la peinture que l'on fait sans la faire. Hein. Parce qu'en flinguant des poches de peinture qui sont disséminées sous le plâtre, à la fois c'est elle qui fait, mais c'est un faire aléatoire. Hein. Donc elle travaille dans deux directions finalement très, très novatrices. Et alors ça, hein, ça, vous n'aviez pas non plus trouvé le nom de cet artiste, hein, mais on est en effet dans la mouvance de Judith Rigol, sauf que là, on est dans quelque chose de beaucoup plus coloré. C'est une Américaine, hein, mais qui a beaucoup vécu en France, une fois de plus, hein, et qui s'appelle Joan Mitchell. Hein. Joan Mitchell est une artiste... alors, qui est dans la gestuelle, mais pas la gestuelle bien cartésienne, très élégante, très calculée, de Mathieu, par exemple, hein, mais dans une gestuelle beaucoup plus brutale, hein, beaucoup plus colorée aussi, hein, beaucoup plus... Qui, en fait, appartient à cette peinture américaine abstraite, hein, dont Joan Mitchell est une des grandes représentantes féminines. Hein. Alors, on en parle moins que Pollock, bien entendu. Parce que son problème, c'est qu'elle est une femme. Alors, on ne va quand même pas parler d'une femme qui fait l'action painting. On est bien d'accord. Hein. Donc on parle des hommes, bien entendu. Ah, et ça ? Alors là, vous allez me faire le plaisir d'apprendre par cœur le nom de cet artiste. Hein, que pour ma part, j'aime infiniment. Ah oui, oui, j'ai même plusieurs peintures d'elle. Hein, je... Mais c'est une œuvre qui... c'est une artiste qui est morte récemment, qui s'appelle Aurélie Nemours. Aurélie Nemours est une femme peintre qui a eu droit à une grande rétrospective au centre Georges Pompidou. Elle avait un étage entier. Il n'y a que les Français pour ne la pas connaître. C'est une des figures fondamentales de l'art abstrait géométrique. Il faut connaître Aurélie Nemours.
1980.
Oui, elle est décédée en 2005. Mais ça, la commission, vous voyez là, date des années 80. Aurélie Nemours est quelqu'un qui a toujours travaillé à l'abstraction géométrique. Depuis ses âges les plus tôt. Hein, elle a travaillé là-dessus.
C'est l'acrylique, toujours.
Oui, ça, c'est de l'acrylique, ouais. Et voilà. Alors, maintenant qu'on a vu ce Gotha de la peinture féminine au XXe siècle, je vais vous montrer quelques portraits d'artistes féminines du XXe siècle. Soit ce sont des autoportraits, soit ce sont des portraits faits par d'autres, et on va essayer de retrouver de qui il s'agit. D'accord ? Vous comprenez, vous avez bien compris la règle du jeu, hein ? Voilà.
Mais ça va être les mêmes auteurs qu'on a...
Ouais. Alors là, vous devez connaître l'auteur de cette peinture.
Super. C'est très beau, ça.
Donc, le problème, c'est de connaître, un, le sujet, qui est représenté, deux, qui a fait la peinture.
C'est pas un autoportrait.
Pardon ?
C'est pas
Berthe Morisot. C'est pas Berthe Morisot. Non, mais ce qu'il s'agit... D'abord, on est au XXe siècle, attention, même si là, on déborde un peu. C'est-à-dire que certains artistes ont été à cheval sur le XIXe et le XXe.
C'est voilà.
Donc effectivement, l'œuvre que vous voyez là est une œuvre qui date du XIXe siècle, parce que la personne qui est représentée est à cheval sur les deux siècles.
Mary
c'est
Cassatt.
Ça le problème des artistes qui naissent.
Mary Cassatt.
C'est pas Mary Cassatt. Non, il y a, alors, est-ce que vous avez une idée de qui est représentée ? Parce que celle qui est représentée, c'est une de celles dont on a vu des œuvres tout à l'heure. Je crois que j'ai entendu son nom derrière. Voilà. C'est Suzanne Valadon.
Non.
Mais Suzanne Valadon, représentée par qui ? Pardon ? Non.
Son mari ?
Mais non, c'est une femme qui a fait ça.
Par Toulouse-Lautrec.
Ah, mais je pensais que c'était...
Vous avez là Suzanne Valadon, toute jeune, représentée par Toulouse-Lautrec.
Ah, mais je croyais que vous nous montriez des tableaux de femmes.
Non. J'ai bien dit qu'il s'agissait de représentations de portraits d'artistes femmes, et que les auteurs étaient soit les artistes elles-mêmes, soit d'autres artistes.
C'est Frida Kahlo.
C'est Frida Kahlo, vous la reconnaissez. Et l'auteur ?
C'est peut-être lui, oui.
C'est lui, c'est-à-dire Diego Rivera. Voilà. Très beau portrait de Frida Kahlo par Diego Rivera. Et c'est donc ça représente quoi ? Et ben voilà, ça représente elle. Vous avez là un autoportrait de Tamara de Lempicka dans sa Bugatti verte. Hein ? Pas mal. Hein ? dans le genre vamp à la Bugatti, ça fonctionne. Hein.
C'est
Jeanne et Buterne. C'est Jeanne et Buterne par Modigliani. Voilà. Très beau tableau de la collection Barnes. Hein. C'est Jeanne et Buterne par Modigliani. D'accord ?
Oh, c'est marqué, Marie-Laurence.
Ah, c'est marqué, oh zut alors.
Elle est très adorée,
c'est moi. Ah oui, c'est marqué là, oh vache. C'est Marie-Laurence. J'aurais dû couper, mais j'ai pas, je l'ai pas. Je vois mal ici. C'est Marie-Laurence, hein, pas Marie-Laurence, hein. C'est elle-même. Parenthèse, là aussi, je trouve cette œuvre-là beaucoup plus forte que ce qu'on voit souvent d'elle. Hein. Tu sais, ces petites filles décolorées, là, qui, à mon avis, n'ont pas grand intérêt, et ne sont pas du tout inventives. Enfin, là, vous avez quelque chose qui est vraiment radical. Hein. Et donc, on voit vraiment que c'est une artiste qui a peut-être aussi un peu trop donné dans la facilité pour des raisons commerciales. Hein. Évidemment, ces petites filles avec un bouquet de fleurs, ça se vendait très bien. Hein. Mais là, vous avez vraiment quelque chose qui révèle une artiste d'importance, comme l'admirable portrait de Max Jacob de tout à l'heure. Hein. On est dans un autre registre. Hein.
Mais là, dans ces deux portraits-là, elle est très jeune. En
fait. Oui, absolument. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui.
Voilà. Bah c'est celle qui vient en dernier, là. Oui, la Finlandaise.
La Finlandaise.
Oui.
Absolument. Elle s'appelle comment, la Finlandaise?
Hélène Schmerch.
On est d'accord. C'est elle. Alors, elle a fait des quantités d'autoportraits, très très curieux. L'exposition qu'il y a eu à Paris, au musée municipal d'art moderne de la ville de Paris, il y en avait comme ça à plusieurs dizaines. Parce que ça intéressait beaucoup, vous savez qu'il y a des peintres comme ça, parmi les plus grands, hein, qui sont beaucoup intéressés à leur image pour voir comment ils pouvaient la malaxer. Ça. C'est le cas d'Hélène Schmerch-Beck. Hein. Très beau portrait d'elle. Oui, effectivement, oui, il y a un collage là. Hein.
Mais c'est du collage, c'est celle qui avait fait.
Anna Heusch, notre collagiste dadaïste. Eh ben non. Bien pensé que vous tomberiez dans le panneau d'ailleurs. Pas Picasso.
C'est une femme.
Ah, ça représente une femme.
Non, mais qui l'a peint.
Ah, je ne sais pas. Pas forcément.
Ah, mais c'est pas un autoportrait quand même.
Ça n'est pas un autoportrait.
Et pourtant, elle tient une palette et des pinceaux.
Ouais. Mais c'est quelqu'un qui l'a représenté avec les instruments de son travail. Peut-être que les choses qu'il y a à l'arrière peuvent vous donner une petite idée. C'est russe. Qu'est-ce qu'il vous dit de c'est russe ?
Des
caractères, mais pas que. Le coq d'or, admirable opéra de Rimsky-Korsakov. Hein. Je ne vais pas vous le chanter, mais vous savez quelque chose, le coq d'or. Hein. Bien. Alors c'est qui? C'est Natalia Gonsarova par
Larionov,
hein, son compagnon. Voilà, très beau tableau de Larionov figurant Natalia Gonsarova. Et là. C'est quoi ça?
Super.
Pas mal, hein?
Ah oui, ça c'est super. C'est le début du siècle. Hein.
Américaine?
Non.
C'est Romaine Brooks. Absolument. C'est Romaine Brooks. Très beau autoportrait du Musée national d'art moderne, d'ailleurs. Hein. Pas à chercher très loin. Très beau portrait de Romaine Brooks. Un autoportrait d'elle. Je crois que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Mais ça n'est pas la fin, parce qu'il nous reste 10 grosses minutes. Juste le temps pour faire une petite révision. Eh oui. Oh, une petite révision très très simple. Hein. On va voir une quinzaine, je ne sais pas combien j'en ai mis, d'œuvres de peintres femmes. Alors, pas du 19e et du 20e, parce que ce serait trop facile. Le 19e, on l'a vu la dernière fois, le 20e, on l'a vu aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous resservir cette soupe-là. Je vais vous resservir la soupe des séances précédentes. Hein, là où vraiment... Je vais vous montrer des œuvres, mais avec le titre, la date, etc., mais pas le nom des artistes, que nous allons bien entendu retrouver. Et en plus, j'ai classé par ordre chronologique. Je suis assez sympa.
Ça va commencer dans l'Antiquité.
C'est fichu.
C'est raté. C'est raté. Non, mais vous ne savez pas lire. Il faut simplement regarder. Il ne faut pas lire. D'ailleurs, ça peut être une fausse piste. C'est ça. Katharina von Hemmessen. Hein, vous vous rappelez Katharina von Hemmessen? C'est, je vous rappelle, hein, je vous ai montré il y a 3 séances son autoportrait. Elle est a priori la femme qui avait le premier autoportrait féminin de la peinture occidentale. Hein. Donc voilà une œuvre de Katharina von Hemmessen. Hein. Rappelez ces portraits assez réalistes. Hein, on en avait vu il y a 3 séances. D'accord? Facile, en plus c'est marqué. Mais on ne lit pas, on regarde.
Non. On a vu.
Mais vous avez tous vu.
Oui. Sophonisba.
Sophonisba.
Anguissola.
Sophonisba comment?
Anguissola.
Anguissola.
Ah si, oui.
Mais on en a vu une déjà.
Ça. C'est une œuvre de la pulpeuse Artemisia. Artemisia Gentileschi. Hein? Très bien. C'était marqué sur les 2 premières, mais ce n'est pas marqué sur les suivantes.
C'est dommage.
Clara Peters, très bien. Hein? Une œuvre de Clara Peters. Hein? Vous connaissez le côté très parfait, porcelainé, etc. Et ça, c'est la française. Elle s'appelle comment, cette Française-là? Louise Moyon. Louise Moyon. Ah, et là? Ah oui. Judith Lester, bien entendu, hein, qui nous amène dans quelques maisons closes avec la proposition. Hein, comprend ce qui se passe. Voilà, cet artiste au nom difficilement prononçable, Rachel, je pense qu'on prononce Reusch, en français ce serait Ruiz, mais je pense que c'est Reusch, hein. Donc cette nature mortiste fleuriste dont vous avez ici un très beau tableau. Ah, Giulia Lama, absolument, un Giulia Lama. Tiens, pourquoi Saint-Roch?
Parce que...
Pourquoi Saint-Roch?
Patron de quoi?
Patron de quoi?
Parce que son chien l'avait guéri de...
Effectivement, le chien de Saint-Roch a guéri Saint-Roch de la peste. Hein, vous savez, en lui léchant le bubon qu'il avait sur la cuisse. Hein. Mais pourquoi Giulia Lama, par parenthèse, hein, représente-t-elle Saint-Roch? Alors, oui, c'est toujours bien de représenter Saint-Roch autrefois, parce que la peste est toujours récurrente, hein, c'est vrai. Mais elle est originaire d'où, Giulia Lama? Elle peint où? À Venise.
De Saint-Roch, c'est là, il y avait la corporation.
Voilà, à Venise, il y a la fameuse Scuola di San Rocco, hein, la Scuola di San Rocco Maggiore, hein, cette grande école où Tintoret, notamment, a fait ses grandes peintures, hein, extraordinaires, hein. Donc Saint-Roch est un lieu particulièrement, est un saint, pardon, particulièrement lié à Venise.
Alors, ça c'est un français.
Rosalba. Carriera.
Rosalba Carriera. Hein. Très beau portrait représentant le futur Louis XV. Hein. Je vous l'ai dit que Rosalba avait fait le tour de l'Europe et qu'elle avait portraituré, ci et là, quelques grands personnages. Voilà un admirable portrait de Rosalba figurant le futur Louis XV. Déjà assez content de lui, d'ailleurs. portugaise. Ah non. La portugaise, elle vous aurait fait quelque chose d'un peu plus marronasse, si j'ose dire. Hein. Encore plus âpre. Hein. Là, il est vrai que c'est assez rustique. Vous avez un jambon, une bonne bouteille de vin, trois radis, n'est-ce pas, ou quatre. C'est rustique. Mais l'auteur, j'ai fait un peu exprès d'ailleurs de mettre ce tableau-là, l'auteur est un tableau qui est un artiste qui réalise généralement des tableaux plus, comment dire, dont le sujet est plus rare. Hein. Là, c'est peint vraiment avec sa manière, mais par contre, le sujet est assez rustique. Une sorte de pique-nique, pourrait-on dire. Hein. Quelle est cette nature mortiste française du XVIIIe siècle?
Celle qui a fait les coquillages et les...
Non, du parc, c'est plutôt des scènes de Janssen, la couseuse. Hein, voilà. Ça, c'est Françoise Duparc. Mais là, celle qui a fait effectivement les coquillages. Pardon, Valérie Coster. Hein, Anne Valérie Coster, effectivement, c'est elle. Non, on ne l'a pas vu. Ah non, c'est que des inédits, là. Mais c'est proche de ce qu'on a vu.
Oui. Oui.
Si, Angelika Kauffmann. Hein, donc une artiste néoclassique, hein, originaire de Suisse, et qui là d'ailleurs, par parenthèse, vous voyez le sujet Xuxis, choisissant ses modèles. Hein. Vous vous rappelez de Xuxis, ou Xuxis, on peut le prononcer de plusieurs manières. Je vous rappelle que c'est un peintre plus ou moins mythique de l'Antiquité. Hein, c'est celui-là même qui, un jour, en peignant les raisins, a vu les oiseaux, les picorer, les grappes. Hein, donc, figure très importante. Ben, évidemment, Angelika Kauffmann ne peut qu'être intéressée par Xuxis. C'est le grand mythe antique de la peinture, Xuxis. Elle, qui est une néoclassique pure et dure, hein, elle s'intéresse forcément à Xuxis. Elisabeth Vigée, le moine. Hein. Ça, c'est facile.
C'est Marguerite Gérard.
Pas Marguerite Gérard.
Non.
Pas le moine. Ça représente qui?
Madame Élisabeth de France.
Ouais. C'est qui cette Madame Élisabeth?
Oh, c'est la sœur de Louis XVI.
Adélaïde comment? Labille
Guillard.
Comment Guillard? Adélaïde Labille Guillard. Hein. Et pour terminer, nous flirtons avec le 19e. Hein. Il est temps de s'arrêter. Celui qui ressemble? Ah non, c'est avant. Vous pensiez à Eva González. Non, on est bien avant, là. Ouais. Vous donnez votre nom au chat? La copine de Fragonard.
Eh bien, Marguerite Gérard.
Marguerite Gérard. Hein, là, c'est Marguerite Gérard. Et ben voilà, hein, c'est ainsi que se termine cette série. Alors, on me demande également de vous dire qu'il reste encore quelques places, 8 places, je crois, pour le voyage à Fontainebleau. Hein. Alors, je sais qu'on se lève tôt, moi autant que vous, d'ailleurs. Hein. Enfin, à Fontainebleau, mais bien, très tôt. Hein. Voilà, donc il reste encore 8 places.